interprétation satisfaisante de ce prodige, ou, à défaut, l'oublier un instant. Il n'était parvenu ni à l'un ni à l'autre. Les rapports qu'Andreas entretenait avec la capitale, la merveille, comme on l'appelait alors, étaient pour le moins complexes, mêlés de mépris et d'admiration, de réjouissance et de déception. S'il détestait la saleté de ses rues, noyées sous une boue puante de détritus et d'excréments dans laquelle trempaient cochons et chiens errants, et à laquelle s'ajoutait la pestilence des panses du bétail égorgé en plein air par les bouchers, il admirait en revanche ses splendeurs architecturales. Hors les murs, il y avait le temple et Saint-Martin-des-Champs, le Louvre, bien sûr, avec ses belles colonnades et sa vaste cour carrée qui était bornée à l'Orient par l'enceinte de la ville. Rive droite, il y avait Saint-Germain-l'Auxerrois, la plus ancienne église de la capitale, le Grand Châtelet, Saint-Gervais et Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Rive gauche, il y avait Saint-André-des-Arts, le Collège de Cluny, le Moulin des Copeaux qui surplombait la Bièvre, ou Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et puis dans le berceau de Paris, qu'on nommait la Cité, et qui était enfermé par les deux bras de la Seine, il y avait Notre-Dame, que l'architecte Pierre de Chelles venait tout juste de doter d'un jubé magnifique, évoquant la descente aux limbes. Et le palais, enfin, dont la beauté était à la hauteur de sa royale fonction. S'il exécrait le dédain de la royauté, l'autorité stupide du prévôt de Paris qui siégeait au Châtelet, ou le dogmatisme rétrograde d'un évêque frustré par la domination de Sens, il éprouvait toutefois un amour sans limite pour l'audace du clergé universitaire et l'impudence des étudiants, qui de plus en plus nombreux faisaient souffler sur la ville un air de progrès et de nouveauté. Le prestige de Paris faisait venir à elle artistes, penseurs et philosophes de tout pays, et la transformait en un berceau lumineux de pensée et de création. Parfois d'ailleurs se mariait dans la capitale ce qu'il y avait de plus beau à ce qu'il y avait de plus laid. Ainsi, la semaine précédente, venaient d'être achevés les travaux entrepris par Philippe le Bel sur le palais de la Cité. La nouvelle enceinte qui bordait la Seine était une véritable œuvre d'art qui anoblissait le fleuve. Mais elle avait été érigée à grands coups d'expropriations injustes, ce dont Andreas, comme beaucoup de Parisiens, s'était fortement indigné. Sur le chemin du retour, en la rive droite, que l'on appelait alors le quartier d'Outre-Grand-Pont, par opposition à la gauche que l'on nommait d'Outre-Petit-Pont, ou Pays Latin, arrivé dans la rue Saint-Denis, il s'arrêta près d'une étroite maison à quelques pas de sa boutique où travaillaient trois fillettes qu'il connaissait bien. Elles étaient tout autant que lui de véritables figures du quartier qu'on n'allait pas seulement voir pour quérir le fruit de leur commerce, mais aussi parce que les putains faisaient survivre la tradition des diseuses de dix, ces femmes qui, autant jadis, contre un petit bout de pain, colportaient les nouvelles du coin. Les rumeurs que l'on venait chercher auprès d'elle étaient de toute évidence bien différentes de celles qu'on échangeait sur le parvis des églises au sortir de l'office dominical.
« Si ce n'est pas notre apothicaire qui s'en revient tout seul la queue entre les jambes !»
s'exclama celle qu'on appelait Magdala la Penante, et qui était la plus âgée des trois.
« Alors, il est parti, ton Jehan ? C'est qui va nous manquer, le joli Jésus ?»«
Ne te lamente pas trop, ma fille. » Il n'est pas près d'arriver le jour où ta profession manquera de chaland.
Détrompe-toi, Andreas,
répliqua-t-elle d'une voix soudain plus grave.
Mais t'as l'impression que la voirie est en train de nous préparer un mauvais tour. Et je donne pas cher de notre petit commerce. Si ça continue, je sens que je vais devoir aller vendre ce joli cul de l'autre côté des remparts.
Magdala n'était plus de toute jeunesse, mais elle avait encore de belles formes et une solide réputation. Approchant sans doute la quarantaine, tout comme Andreas, elle avait de longs cheveux ondulés d'un noir de jais, des yeux bleus comme deux lacs de montagne, une opulente poitrine pour une taille encore assez fine, et les rides sur son visage étaient celles du sourire.
« Qu'est-ce que tu racontes ?»«
Que cela fait une semaine qu'un échevin vient nous béquer et nous chercher des noix, et que je soupçonne qu'il a un projet. Je devine un dessin venu de plus haut, si tu vois ce que je veux dire, et qu'on va se faire macaronner. »«
Et que crois-tu qu'ils vous veulent ?»«
J'en sais trop rien. » Mais ce qui est certain, c'est que ce berdouillard, il pense qu'à nous déloger.
Allons bon, quelle idée.
Dans le gouvernement humain, ceux qui commandent tolèrent à bon droit quelques mots, de peur que quelques biens ne soient empêchés, ou même de peur que des mots pires ne soient encourus.
Voilà qui est bien dit. Tu sais causer, toi, mon lapin.
Ce n'est pas de moi, c'est